Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Évangile de Marc, chapitre 7, verset 24. Marc chapitre 7, verset 24. Jésus, étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Jésus entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de Jésus et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle pria Jésus de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. » Alors Jésus lui dit « À cause de cette parole, va !» Le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Alléluia. Le témoignage de cette femme, vous l'avez remarqué, c'est noté, qui n'est pas juive, est un témoignage extraordinaire. Pourquoi ? Parce que il nous invite à prendre le temps de considérer la foi qui est dans son cœur vis-à-vis de Jésus, pour la guérison, la délivrance de sa fille. Et le témoignage de la foi de cette femme va nous révéler plusieurs choses importantes. La première, c'est la ténacité. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Et Jésus aime cela. Jésus, Dieu, n'aime pas l'indécision. Est-ce que j'y vais, je ne vais pas, est-ce que je crois pas. Non, il aime cela. La ténacité. Et la deuxième chose, bien sûr, ça rejoint un peu cette première particularité de cette femme, c'est sa persévérance. Dieu aime des hommes et des femmes persévérants. Persévérants. Et ces deux positions que cette femme a choisies dans le cadre de la foi va lui permettre d'aboutir, va lui permettre d'atteindre ce dont elle a besoin, de le recevoir. Et avec abondance, elle a eu, et nous l'avons lu, on va y revenir, elle a eu gain de cause pour sa fille, qui était possédée par un esprit impur, un démon. Et je veux bénir encore le Seigneur, et je ne cesse, et vous ne cessez de le faire, Et j'aime ce mot puisque j'en parle depuis déjà quelques mardis soirs dans le cadre de l'étude de la Bible, c'est le mot grâce. Et je bénis le Seigneur, comme vous le faites, pour l'œuvre de sa grâce, qui va en tout temps environner celui ou celle qui désire se confier dans la toute-puissance de Jésus-Christ. C'est le prophète Jérémie et bien d'autres comme lui l'ont dit d'une manière ou d'une autre, mais Jérémie, chapitre 17, verset 7, dira ceci, « Heureux l'homme qui se confie dans le Seigneur et dont l'Éternel est l'espérance. » Juste avant, Jérémie, le prophète, va dire, mais maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Vous avez remarqué que l'homme a cette tendance à se confier plus en l'homme, plus dans les capacités humaines qu'en Dieu. Surtout aujourd'hui. Quel est le résultat? Si vous lisez le texte, que je viens de souligner, la référence, Jérémie 17, et vous allez vous rendre compte que le résultat est dramatique. Il n'est pas du tout, le résultat de ce que l'on peut attendre, de ce que l'on peut espérer sur le plan de notre humanité, sur le plan de notre âme, de notre cœur. Mais Jérémie dit, béni soit l'homme qui se confie dans le Seigneur, dont le Seigneur est l'espérance. Alors, c'est différent, il y a l'abondance, il y a la fraîcheur, il y a la bénédiction de Dieu, il y a la réponse de l'Éternel. C'est l'action bienfaisante, j'insiste avec le mot, de la grâce de Dieu. Elle est suffisante pour ce matin restaurer le malade. Elle est suffisante ce matin pour sortir l'homme de son esclavage, l'esclavage du péché, l'esclavage qui va se manifester sous différentes formes. La Bible dit que l'homme est esclave de ce qui triomphe de lui-même et la grâce de Dieu est suffisante pour pardonner celui qui se repent sincèrement. Honnêtement, profondément. Mes frères et sœurs, cette femme donc et son histoire, bénie, malgré tout, parce qu'elle finit bien, c'est une histoire qui est là pour encourager notre propre foi. Elle est également là dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Matthieu, de Marc et de Luc, pour stimuler notre foi. Dans le psaume 123, verset 2, il est écrit « Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait compassion, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. » On revient à la ténacité, la persévérance, dans le démarche de la foi, de la confiance en Dieu. Béni soit l'homme qui fait ainsi, la femme qui fait ainsi, même Jacob, à un moment donné, alors qu'il est en train de mener un combat, dans le sens où il ne veut pas lâcher celui qui se manifeste à lui, l'ange de l'Éternel, il va lui dire, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Je voudrais vous poser une question. Est-ce que votre foi vous amène à parler ainsi à Jésus? Est-ce que votre foi, encouragée, stimulée par l'évangile, non pas par je ne sais quoi, mais par l'évangile, par le fait que vous restez en présence de Dieu, en communion, parce que la présence de Dieu c'est une chose, mais en communion avec Dieu, avec Jésus, pour encourager, stimuler votre foi, alléluia, est-ce que vous lui dites, Seigneur, je ne te laisserai pas aller, que tu ne m'aies béni, moi et ma maison. Moi et l'église où je suis. L'église où tu m'as placé. L'église où je suis là pour te servir. Non pas aller de droite et de gauche, non, je suis là. Et je suis là pour, Seigneur, travailler avec toi, pour travailler pour toi. Je ne te laisserai point aller, ne laissons jamais le Seigneur partir. Je veux qu'il me bénisse, afin d'être à mon tour un instrument de bénédiction pour les autres. Et cette femme, pardonnez du peu, mais elle est pour moi, et j'espère pour vous, un instrument de bénédiction. Un instrument d'encouragement ce matin. Un instrument pour stimuler ma foi. Le Seigneur nous adresse plusieurs invitations. Allons-nous y répondre? Donc la première, c'est de nous tourner vers lui. Cette femme, elle ne va pas se tourner vers quelqu'un d'autre que vers Jésus. Pourtant, elle n'est pas juive. Mais peu importe. Ce n'est pas le statut de juif ou de non-juif qui fait que le Seigneur est beaucoup plus disponible. C'est le statut de la foi. De la persévérance de la foi. De la ténacité de la foi. Et donc, une de ces invitations qu'il nous adresse, le Seigneur, c'est de ne jamais oublier que c'est vers lui qu'il faut que je me tourne. Parce que lui me comprend. Parce que lui m'accepte tel que je suis. Et parce que lui peut me secourir parfaitement. Il y a une autre invitation, c'est, et j'insiste avec le mot, c'est de continuer à persévérer. Qu'attendez-vous de Dieu? Je pourrais poser la même question, mais d'une autre manière. Dieu, Jésus, qu'attend-il de vous? Mes frères et sœurs, la Bible dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Un chrétien croyant, quelqu'un qui est né de nouveau, n'est plus quelqu'un qui va mendier. Mendier l'amour. Mendier je ne sais quoi encore dont on pourrait avoir besoin. Pourquoi? Parce que nous l'avons en Jésus-Christ. Et cette femme est pour moi un exemple de foi parce qu'elle sait que celui qui est là, annoncé, manifesté, agissant, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, loin de l'Éternel, va être le seul capable de lui donner ce dont elle a besoin. Et elle, qu'est-ce qu'elle lui apporte? Certes, son fardeau, sa misère, cette problématique qui touche sa fille, mais qui touche son propre cœur de mère. Mais c'est pas tellement ce qu'elle lui apporte par rapport aux besoins, parce que rien n'est impossible à Dieu. Qui touche le cœur de Dieu, qui interpelle le cœur du Seigneur, ce qui, eh bien, fait que la main de Dieu est agissante, la droite de Dieu est triomphante, c'est la démarche de la foi dans la persévérance, de se tourner vers lui. Jusqu'à ce que la grâce du Seigneur nous soit accordée. Il y a trop de légèreté. Trop. Mon frère, ma sœur, vous avez remarqué que j'ai marqué une pause, hein, mais tout simplement parce que quelque chose qui s'impose. Plusieurs ici sont devenus légers. Très important ce que je suis en train de vous dire. Vous le prenez comme vous voulez, mais ça vient de Dieu. Vous êtes devenus légers. Je voudrais vous dire une chose. Ce n'est pas votre baptême d'eau qui vous confère un statut d'hommes et de femmes profondément spirituels. Pas vrai. Sortez-vous ça de la tête. Le baptême d'eau est une obéissance. D'accord, alléluia. Mais ce n'est pas suffisant. Ce qui va nous conférer le statut d'hommes et de femmes spirituels ou une stature spirituelle. Et je n'ai pas fini d'en parler d'évoquer ce mot, c'est la foi. Que vous le vouliez ou pas, mes frères et sœurs, vous pourrez tout essayer. Si vous n'avez pas la foi, vous allez être léger dans la balance de Dieu. Ce qui apporte du poids, de la consistance à une vie chrétienne, c'est pas l'intelligence, c'est pas le statut social qui est le nôtre, non, non, ce n'est pas mon baptême. Ou parfois peut-être ça a été un baptême un peu trop rapide. C'est ma foi. Le brigand qui est en train de se repentir sur la croix, mes frères et sœurs, mes amis, laissez-moi vous dire qu'il n'est pas baptisé. Mais ce qui fait que le Seigneur est touché, non seulement c'est par rapport à la repentance de cet homme qui se manifeste, sérieusement, honnêtement, en vérité, mais c'est surtout la foi qui se dégage du cœur de cet homme. Et pourtant, il n'a pas fréquenté d'école biblique, il n'a pas plongé ses regards dans la Torah, parce que ce qui l'intéressait avant d'être sur cette croix, c'était de voler les gens, c'était de tuer, c'était de ceci, c'était de cela, toujours en opposition avec la sainteté de Dieu. Non, mais ce jour-là où il est en train de mourir, ce qui touche le cœur de Jésus, c'est sa repentance avec la foi qui touche le cœur de Dieu, le cœur de Jésus fait que Jésus lui dit « Aujourd'hui, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et tout à l'heure, je vous disais, mes frères et sœurs, que, eh bien, il est important de persévérer par le moyen de la foi jusqu'à ce que la grâce du Seigneur nous soit accordée. C'est ce que nous montre le témoignage de cette Syro-Phénicienne. Parce que si je manifeste cette caractéristique, ce caractère spirituel, cette démarche spirituelle, le Seigneur me dira pas demain, mais il va me dire aujourd'hui, je te guéris. Aujourd'hui, je te sauve. Aujourd'hui, je vais changer tout ce qu'il y a changé dans ta famille. Mais il faut la foi. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est s'abandonner. La foi, c'est de dire, oui, Seigneur, je me lâche entre tes mains. C'est comme si quelqu'un était là. Vous imaginez, qui que vous soyez, je vous demande de venir ici. Je suis sur une petite estrade. Et je vous dis, voilà, je vais me laisser tomber, tu me rattrapes. J'ai confiance, hein. Parce que si même pas trop, il va... Bien fait pour lui. Non, ça n'existe pas dans l'Église, ça. Alléluia. Bref. Non, je vais me lâcher parce que je lui fais confiance. Et celui qui est devant moi, il va me rattraper... parce qu'il ne veut pas que je me fasse du mal. Et parce qu'il est également réjoui de ce que je lui fais confiance. Je ne vais pas commencer à lui demander son CV. Est-ce qu'il va faire de la muscu? Est-ce qu'il a déjà fait cela? Est-ce que c'est quelqu'un de sérieux? Je vais faire une enquête de moralité. Non, je lui fais confiance. Mes frères et sœurs, quand je dis tout à l'heure, et je l'ai dit solennellement parce que le Saint-Esprit me l'a mis vraiment sur le cœur à ce moment-là, que certains sont légers, c'est pas un reproche, c'est pour vous faire réagir positivement, spirituellement, parce que Dieu vous aime et il veut répondre à votre besoin. Il veut vous guérir, il veut vous restaurer, il veut vous libérer, il veut vous donner la bénédiction comme l'a vécu cette femme. Donc le fait d'être léger, c'est un problème. Et aujourd'hui, il veut le faire, pas demain, pas après-demain. Ne vous dites pas, le Seigneur a le temps, après tout. Oui, Dieu fait toutes choses en son temps. Mais moi, personnellement, et d'autres comme moi, je dis Seigneur, aujourd'hui. Paul dira, c'est aujourd'hui le jour du salut, c'est maintenant le temps favorable. Cette femme n'avait pas entendu cette parole que Paul va prononcer bien plus tard. Mais elle sait au plus profond d'elle-même que avec Jésus, c'est maintenant. Pourquoi ? Parce qu'il y a une urgence. N'y a-t-il pas des urgences dans votre vie, mes frères et sœurs, sur le plan de votre santé, sur le plan de votre couple, sur le plan de votre famille, sur le plan professionnel, sur le plan social, et dirais-je, encore et encore, sur le plan spirituel, n'y a-t-il pas des urgences à Groyer ? Y en aurait-il qu'ailleurs ? Non, il y en a aussi à Groyer. La foi simple, mais la foi déterminée. Êtes-vous des hommes et des femmes déterminés ? Je suis un homme déterminé. Amen. C'est pas après tant d'années que je vais être autrement que cela. D'ailleurs, j'ai plus rien à prouver à l'âge que j'ai aujourd'hui. Je cherche à rien prouver, moi. Quand j'étais plus jeune, oui. Mais maintenant, non. C'est ça qui fait que je suis tranquille. Ah, je suis bien. M'inquiète pas du regard des uns et des autres, ce que pensent les gens. Ça ne m'intéresse pas, ça. Ce qui m'intéresse, c'est de demeurer dans la foi simple. Déterminé. Jésus, je suis déterminé. Je veux que tu touches le cœur de ma fille. Je veux que tu touches le cœur de mon frère. Je parle de mon frère, de ma famille. Je veux que tu touches le cœur. Je veux, Seigneur. Je ne dis pas « si tu veux ». Non, je dis « je veux ». Cette femme, elle ne vient pas en disant « Seigneur, si tu as le temps, si ça va, si c'est dans ton programme, si ton planning n'est pas trop chargé, Seigneur, si tu veux ». C'est pas ce qui est écrit. Elle ne dit pas « je voudrais pas te bousculer, te gêner ». Seigneur, je veux te bousculer un petit peu ce matin. Et le Seigneur dit, vas-y Laurent, bouscule-moi. J'aime ça. Oh, dans le bon sens, c'est pas péjoratif. Vous le comprenez très bien. Dans le respect du Seigneur. La foi simple, mais déterminée, qui nous conduit toujours au pied de Jésus. Et au verset 24, eh bien, oui, il est écrit que Jésus est entré dans une maison. Mais il est entré dans une maison, dans ce territoire de Tyr et de Sidon. Il est entré dans cette maison. Et quand il est dans cette maison, dans ce territoire, j'attire votre attention sur le fait que les deux villes en question, Tyr et Sidon, ce sont des villes qui, au sein desquelles, dirais-je, il n'y a pas la foi en Dieu. Il n'y a pas la foi dans le Dieu d'Abraham, dans le Dieu d'Isaac, dans le Dieu de Jacob, dans l'éternel créateur. Non, non. Tyr et Sidon, ce sont deux villes où il y a le paganisme. Tyr et Sidon, ce sont deux villes où il y a l'idolâtrie. Tyr et Sidon, ce sont des villes où il y a l'occultisme. Tyr et Sidon, ce sont deux villes où il y a une opposition ouverte à Dieu, contre Dieu, pardon. D'ailleurs, si vous lisez Matthieu chapitre 11, vous le ferez à la maison, si vous voulez le faire maintenant, faites-le après tout, mais deux villes que Jésus, dans ce texte Matthieu 11, a placées dans la même catégorie, j'attire votre attention, que Sodome et Gomorre. C'est clair. Et Jésus va là. Jésus va là. Il s'arrête là, là où il y a le paganisme, là où il y a l'opposition, là où il y a une guerre ouverte contre Dieu, par l'idolâtrie, par l'occultisme. Jésus va là, Jésus va où il y a les problèmes. Jésus va là où il y a des hommes et des femmes qui ont besoin de lui. Avez-vous besoin de lui ? Moi, je suis venu ce matin en disant « J'ai besoin de toi ». Et je l'ai entendu dans votre louange, votre adoration, vos actions de grâce. Alléluia ! Donc Jésus est là. Il est là, dit la Bible, où deux ou trois sont rassemblés en son nom. Oui, mais attendez, si j'arrive ce matin dans ce lieu avec une certaine désinvolture en disant « Ah ah, voyez, je suis là. Ah, tu es là aussi. Donc Jésus est là. » Non, Jésus n'est pas là. Jésus n'est pas présent là où il y a la désinvolture. Recherché, voulu, l'orgueil, recherché, voulu, etc. Non, le Seigneur résiste aux orgueilleux, mais la Bible dit qu'il fait grâce aux humbles. Et malgré tout, le Seigneur sait que là où apparemment il n'y aurait que des oppositions, le Seigneur sait qu'il y a quand même des hommes et des femmes, et preuve en est, il y a cette femme qui a besoin de son aide. Ce soir, vous avez, ce matin, cet après-midi, ce soir, vous avez besoin du Seigneur Jésus, il est prêt à vous aider. Jésus n'est pas aux abonnés absents. Jésus, si vous l'appelez, moi vous m'appelez parfois, le téléphone sonne, je réponds pas parce que je ne peux pas répondre, vous allez tomber sur ma boîte vocale. Bonjour. Je ne suis pas disponible. Dès que j'aurai un moment, je vous rappellerai. C'est pas vraiment ça mon message sur ma boîte vocale, mais c'est à peu près ça. Vous aussi ? Bonjour. Je ne suis pas disponible. Laissez-moi un message et quand j'aurai un moment, je vous rappellerai. Normalement, quand on me laisse un message, je rappelle dans les heures qui suivent ou le lendemain. Mais il m'est arrivé de laisser des messages. Je n'ai jamais eu de réponse. Alors parfois, c'est parce qu'on ne sait pas utiliser sa boîte vocale, ça peut arriver. Mais le Seigneur Jésus, quand nous décrochons le téléphone de la prière, dans la foi, on n'entend pas une boîte vocale qui nous dit « Bonjour, vous êtes bien sur la boîte vocale de Jésus, de Nazareth ?» Pour l'instant, je suis pas disponible, car je m'occupe d'un tel et d'un tel, mais dès que j'aurai un moment, je vous rappellerai. Et si je suis très occupé, d'ici la fin de l'année, je viendrai à votre secours. Ça vous ferait plaisir d'entendre ce genre de message de la part de Jésus ? Dites la vérité, sérieusement. Ben non ! Quel drôle de Seigneur, on dirait, quel drôle de Dieu. Non, il est disponible, il est là où il faut. Es-tu là où il faut ? Es-tu avec, je dirais, la position qu'il faut et que Dieu attend ? Donc la foi simple, déterminée, alléluia, qui, eh bien, est convaincue de la puissance de Dieu. Et vous avez remarqué que dans ce lieu, Jésus va entrer dans une maison, et c'est très étonnant, il ne voulait absolument pas que qui que ce soit le sache. Ah bon ? Depuis quand ? Alors, vous pourriez me dire, voyez, pasteur, il est aux abonnés absents, Jésus. Mais le Seigneur Jésus, il a toujours été ainsi. Et il l'est encore par son esprit. Il est doux, humble de cœur, je dirais même dans une certaine mesure discret. C'est un gentleman. Il ne vient pas pour brusquer, violenter, ça c'est le monde. Vous avez remarqué qu'à la différence des hommes, par rapport à ce que je viens de dire concernant Jésus, les hommes aiment la publicité, c'est vrai ou pas ? Et vous le remarquez sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Twitter, qu'est-ce qu'il y a encore ? Facebook, face de book. Non, Facebook, pardon. Twitter, et puis il y en a plein d'autres. Hein. Ils cherchent de la publicité. Ça, c'est les hommes. Même certains très connus utilisent leur personne connue. Il suffit qu'ils prennent un paquet de chips, ils se prennent sur Twitter en photo, alors ils ont établi des contrats avec la marque en question, et ils vont toucher à une seule photo, 450 000 euros. Une photo, pim. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit à ma femme, j'ai pris le paquet de râpé. Mais j'aurais dû établir un contrat avant. Oui, mais le bonhomme en question, je ne dirai pas son nom, hein, c'est un grand joueur de foot. Le bonhomme en question, il a je ne sais plus combien de millions de personnes sur son truc, là. Bref, moi, j'ai le Seigneur. Alléluia. Vous aussi, hein? Merci, Seigneur. Donc, ils veulent de la publicité pour dire « ils sont là ». Mais le texte dit que Jésus ne put rester caché. Alléluia. Pourquoi ? Parce qu'il y avait dans cette ville, je l'ai dit, je le répète, une femme qui avait un profond besoin. Parce qu'il y avait dans cette ville une femme qui avait une foi vivante, profonde, authentique, on l'a dit. Troisièmement, parce qu'il y avait dans cette ville une femme qui a su se laisser conduire, on l'a dit, on le répète, par la foi, vers Jésus. Mes frères et sœurs, la foi, comme cette femme nous le montre, béni soit Jésus, elle sait où trouver Jésus. La foi, elle trouve toujours Jésus. Vous n'avez pas trouvé Jésus encore ? Manifestez la foi, cette confiance simple, authentique, persévérante. La foi ne se laisse arrêter par rien. La foi, elle obtient tout de Jésus. Et Jésus est toujours disponible pour l'âme en détresse qui vient à lui et qui l'implore avec foi. Je vais raconter une histoire que j'ai entendue là, il n'y a pas longtemps. Un jour, un garçon se trouve, à cause des ravages de la drogue, enfermé dans un hôpital psychiatrique pour le protéger. Parce que la drogue avait fait des ravages dans sa vie relationnelle, familiale, mais aussi dans son corps. Il avait une partie du cerveau qui était totalement endommagée, ça se voyait dans un IRM. C'est clair. Il avait fait des clichés. Et donc, ils l'ont mis dans cet hôpital pour essayer à faire ce qu'il fallait avec des soins qu'ils avaient à leur disposition pour que cet homme s'en sorte. Et cet homme a réussi à s'enfuir de cet hôpital psychiatrique. Il n'arrivait pas à se dégager de cette emprise de la drogue. Il a dit, il faut que je sorte. Il a trouvé le moyen de sortir. Et il a dit, le seul endroit où je pourrais trouver de la drogue d'une manière permise et abondante, c'est aux Pays-Bas. Donc, il est parti en France. Il est parti vers les Pays-Bas. Il a fait une halte en Belgique. Et là, en Belgique, il s'est retrouvé dans une ville avec une grande place, et il a rencontré des jeunes garçons, des jeunes filles. Et là, sur cette place, avec ces jeunes garçons et ces jeunes filles, qui, eux, étaient en train de partager leur foi en Jésus-Christ, qui, eux, étaient en train de parler de l'Évangile, prêcher la croix, ce garçon a été touché immédiatement, il a été convaincu de péché, il a été saisi par l'Esprit de Dieu, ça s'est passé très vite. Il y a des chrétiens qui pensent qu'il faut attendre 40 ans pour que... Là, instantanément, et il est allé dans l'église où étaient ces jeunes garçons, ces jeunes filles, il a reçu l'Évangile, a été aidé pendant un temps, Et ensuite, peu de temps après, quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, il a décidé de retourner en France et de retourner dans l'hôpital psychiatrique. Il est arrivé dans l'hôpital psychiatrique, alors bien sûr, toutes les blouses blanches lui ont sauté dessus. Et il leur a dit, non, mais attendez, ne vous méprenez pas, je suis transformé, je suis changé, je suis guéri, il y a eu un miracle dans ma vie. Oh, ils ne l'ont pas pris pour un fou. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des examens, une batterie d'examens, et là, le médecin, il a pris l'IRM d'avant, et il prend le cliché IRM à ce moment-là. Il regarde et il se dit, mais c'est pas possible. L'endroit du cerveau qui était endommagé, qui se voyait sur le premier IRM, sur le deuxième IRM, il n'y avait plus aucune trace d'endommagement. Il a été restauré, il a été relevé, il a été guéri parce que là, sur cette place publique de cette ville de Belgique, il a entendu parler de Jésus et il a mis sa foi en Jésus. Alléluia! Je pourrais passer toute la journée à vous raconter de tels témoignages. Je voudrais rajouter par rapport à ce témoignage et celui de cette femme, quelque part, ça se rejoint. Il y a le miracle. Cette femme va dire à Jésus, SOS, secours-moi. Sa fille est possédée. Cette mère est dans la détresse, mais elle va aller vers Jésus. Et dans le cœur de cette femme, pendant qu'elle va vers Jésus, la foi va naître. L'espérance va naître et elle se jette aux pieds de Jésus. Et se jeter aux pieds de Jésus, mes frères et sœurs, mes amis, c'est l'attitude dont je parlais tout à l'heure, d'un cœur humble avec la foi, d'un cœur simple avec une foi simple. On a tendance à se compliquer un peu trop la vie. Arrêtez de vous compliquer la vie avec Dieu. Soyez comme des enfants. Vous verrez, les enfants ne se compliquent pas la vie. Moi, quand je vois ma petite fille de 4 ans, je suis touché par sa simplicité. Quand elle rend grâce à table, elle serre ses petites mains. Jésus, tu bénis ce repas. Amen. Déjà, c'est simple. Et moi, il m'arrive de me rendre compte, je dis, Jésus, merci de bénir ce repas, merci pour tes bontés, merci pour ce que tu fais, merci pour le soleil qui brille. Laurent, stop, j'ai compris. Seigneur, bénis ce repas. C'est simple. C'est simple, mais ça touche le cœur du Seigneur. On se complique trop la vie. Pas vous? Oui, mais si je vais parler de Jésus à celui-là, comment il va me recevoir? Avant, il faut que je l'analyse, il faut que je le scanne. C'est vrai pour cela, c'est vrai pour tellement d'autres choses. Arrêtez de vous compliquer la vie. Cette femme, elle ne se complique pas la vie. Elle vient vers Jésus. Elle y vient avec humilité. Elle y vient avec un cœur reconnaissant par rapport à la grandeur du Seigneur dont elle a entendu parler. Elle sait qu'elle n'est pas digne de s'approcher de lui. Qui est digne? Qui? Mais elle a un cœur, je l'ai dit tout à l'heure, plein de respect à l'égard de Jésus. Et cette mère, elle va faire monter cette prière vers le cœur de Jésus et elle va lui dire, Jésus, chasse le démon, chasse cet esprit impur hors de ma fille. C'est une invitation à la prière de la foi. C'est une invitation, mes bien-aimés, par rapport à vous-même et vos besoins, à vous attendre au miracle de Dieu aujourd'hui. C'est une invitation à avoir la liberté de tout lui dire, Seigneur, mon cœur est devant toi, il s'épanche. Hors de ma fille, hors de son cœur, hors de ce temple qui doit être ton temple. Et vous allez remarquer, et vous avez remarqué, que cette femme va quand même être éprouvée par le Seigneur Jésus. Je dirais que pour l'avoir vécu tant de fois, et peut-être quelqu'un va être interpellé par cela, c'est que l'affliction, sous quelque forme que ce soit, je parle en tant que chrétien, mais même pour les inconvertis, ça peut devenir une source de bénédiction. J'ai remarqué que quand tout va bien, on passe à côté de certaines choses. Je ne dis pas qu'il faut rechercher à ce que tout aille mal. Mais de toute manière, sans appeler ce qui n'est pas bon, ça vient tout seul, à différents degrés. Donc, l'affliction peut devenir une grande source de bénédiction, mes bien-aimés. Et c'est ce que nous révèle le témoignage de cette femme par rapport à sa souffrance qui l'a conduite à Jésus pour s'attendre à lui seul. Mais quand on détaille cette prière, et je vais le faire avant de conclure, mais quand on détaille cette prière, on peut souligner plusieurs points très révélateurs du contenu de son cœur et de sa foi. Elle lui dit « Aie pitié de moi ». C'est une femme qui croit que la compassion du Seigneur est une compassion qui n'est pas à son terme et qui est toujours agissante. Elle vient en lui disant « Seigneur, fils de David ». Cette femme, elle croit que Jésus est un maître bien plus élevé, bien plus grand que tous les docteurs de la loi de l'époque. Et en plus, elle sait, pourtant elle n'est pas juive, mais elle a compris que Jésus fait partie de la lignée de David. Pourquoi et comment l'a-t-elle su? Le texte ne nous le dit pas. Mais je dirais ceci pour répondre à cette question tout de même, et je me permets de le faire, ça ne tient qu'à moi, c'est que quand la foi est dans un cœur vrai, un cœur vrai, alors la foi dans le cœur vrai va l'amener sur ce terrain de la révélation de la personne de Jésus. Alléluia. Elle va dire « Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, la foi déterminée, la foi persévérante, la foi simple de cette femme, la foi respectueuse à l'égard de Jésus va amener cette femme à croire en effet que Jésus peut maintenant, peut aujourd'hui délivrer sa fille de ce démon, parce que Jésus, c'est l'auteur non pas du mal, mais c'est l'auteur du bien. Parce qu'il est tout puissant, rien ne lui est impossible à Jésus qui est vivant au siècle des siècles. Parce qu'il est venu du ciel et il nous a envoyé son esprit encore aujourd'hui pour délivrer les captifs et les rendre réellement libres. Et le fait qu'elle soit éprouvée malgré cette prière nous répond dans ce sens que tout d'abord, oui, Jésus ne lui dit aucun mot, il ne répond pas à cette prière. Le comportement de Jésus peut nous paraître surprenant, mais Jésus sait ce qu'il fait, pourquoi il le fait. Et sachons bien, mes frères et sœurs, que chez Jésus, il n'y a jamais de mépris, il n'a jamais pris plaisir à faire attendre quelqu'un qui souffre. Jésus est resté silencieux à la prière de cette femme, ce qui ne voulait pas dire que Jésus ne voulait pas prêter attention à cette femme. Ne vous est-il pas arrivé, comme à moi, d'avoir ce genre d'impression ? Peut-être il n'y a pas longtemps, peut-être encore ce matin en venant vers ce lieu de culte, que votre prière semble heurtée contre un mur, que Dieu reste insensible à votre cri ou à vos cris. Le Seigneur ne peut pas répondre tout de suite parfois à nos prières ou à notre prière. Pourquoi ? Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, il veut que nous comprenions encore mieux qui il est, ce qu'il est capable de faire au-delà de notre besoin. En définitive, il veut nous apprendre à compter vraiment et en tout temps ensuite sur lui. Il veut que nous réalisions la valeur de sa présence pour que ça ne dure pas qu'un petit moment, quelques minutes, quelques secondes, à un culte seulement le dimanche matin, mais que nous réalisions la valeur de sa présence. Mais en même temps, le Seigneur, il a raison de le faire. Il est le maître. Il va tester votre foi. Il va tester ma foi. Il va la tester tous les jours. Sommes-nous prêts? C'est ça que le Seigneur veut voir. Sommes-nous prêts à aller jusqu'au bout, même s'il n'a pas répondu de suite ou répondu comme moi j'aurais voulu? Es-tu, mon frère, ma sœur, cher ami, à aller jusqu'au bout avec le Seigneur? Et on est parfois, où on peut être parfois, j'en ai connu comme cela, qui sont comme des enfants et qui boudent. Ils ne louent plus, ils ne prient plus, ils ne sont pratiquement pas jamais, ils sont pratiquement jamais à l'église, ils y sont de temps en temps, parce que Jésus ne répond pas comme eux, ils voudraient que Jésus réponde. Alors ils boudent. Ils boudent dans leur coin, ils font la tête. Mais c'est pas cela qui va faire que Jésus va agir un peu plus vite. Hein. Bien au contraire. Sommes-nous prêts à aller jusqu'au bout ? C'est vrai que les disciples autour de Jésus n'ont pas usé, vous l'avez remarqué, c'est écrit, ils n'ont pas usé de compassion. Hein. Ni de charité, d'amour à l'égard de la souffrance de cette mère. Ils étaient même animés d'un autre état d'esprit qui était plus expéditif. Et ils vont dire à Jésus, « Bien, renvoie-la parce qu'elle nous casse les oreilles. » C'est pas sympa, ça. Et même Jésus va en rajouter, en lui disant à cette femme, en disant, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Aïe, 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 aïe. Ça, si Jésus était aujourd'hui présent en tant qu'homme au milieu de notre humanité du 21e siècle, il dit cela, ça fait le buzz. Ah oui, 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 oui. C'est repris sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les télés, sur tous les plateaux télé. Vous vous rendez compte ? Hein ? Il est exclusif, c'est que pour les juifs. C'est un raciste. Mais malheureusement, vous avez des gens qui traduisent ce texte comme ça. Ils n'ont rien compris à la parole de Dieu. Voyez-vous, cette première réponse de Jésus à la prière persévérante et déterminante de cette mère était de montrer, de rappeler la priorité de sa propre nation, déjà, à cette époque-là, je précise, à cette époque-là, du plan de Dieu. Ça devait être annoncé premièrement aux Juifs. Le salut vient des Juifs. Mais il va quand même ajouter, également, enfin, quand même, il va ajouter, ceci, il n'est pas bien, femme, de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Waouh ! Alors là, ça fait plus que le buzz. Et là, pardonnez-moi du peu, mais cette parole, elle est encore plus humiliante que la première. Mais ça devait amener cette femme à prendre conscience qu'en réalité, elle n'avait pas droit à ce moment-là, hein, à cette bonté dont elle se réclame. Mais cette mère, elle aime tellement sa fille qu'elle croit que la bonté de Dieu et que le miracle du Seigneur va se manifester positivement par rapport à sa demande. Elle croit dans la compassion et la miséricorde de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre du prophète Daniel, chapitre 9, verset 18, « Ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. » Alléluia. Et je termine. Cette femme, sa foi va être récompensée. Parce que Jésus va lui dire, à cause de cette parole que tu as prononcée, donc nous l'avons lue, oui, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table quand les enfants mangent le pain. Ah oui. Et cette parole qui sort de sa bouche est une parole qui montre la confession de foi qui est la sienne. Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et Jésus va honorer la parole de la foi, mais il veut que l'homme l'honore par l'obéissance de la foi à sa parole également. C'est pour cette raison que Jésus dit, va, l'esprit impur, le démon est sorti. La persévérance et l'humilité, c'est le fil conducteur de mon message ce matin avec la foi, sont exemplaires dans la vie de cette femme. Elle respecte, elle reconnaît la place prioritaire des Juifs à ce moment-là. Elle reconnaît sa propre dignité, mais elle se réclame quand même de la bénédiction de Dieu. Mes frères et sœurs, mes amis, je ne mérite rien. Vous ne méritez rien. Je suis humainement parlant, vous êtes humainement parlant indigne. Mais parce que je me reste déterminé dans le domaine de la foi simple, pour encore et encore, c'est vrai que je suis son enfant, mais je le suis par grâce, et encore progresser, et encore avancer, et encore aller de victoire en victoire, et encore progresser dans le domaine de mon engagement spirituel avec Jésus, parce que je demeure conscient que je ne suis digne de rien, que là j'obtiens, que je suis quelqu'un qui ne sait pas grand-chose, là je reçois, que je suis quelqu'un qui tout seul je ne m'en sortirai jamais, là Jésus agit. Alléluia. Que je suis quelqu'un qui ne pourra pas aller jusqu'au bout si je ne viens pas tous les jours avec cette foi simple, déterminée, persévérante. Alléluia. Amen. Alors là je n'atteindrai pas le but, mais avec Jésus, tout devient possible. Le résultat nous montre que elle a obtenu ce qu'elle est venue chercher au pied de Jésus. Le Seigneur a honoré cette femme, pleine de persévérance. La fille de cette femme a été instantanément à l'heure même guérie. Aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, pas demain, après-demain, dans 10 ans. Aujourd'hui, parce que Jésus a tout accompli à la croix. Tout devient possible. Et parce que, j'insiste avec ce mot, je n'ai pas fini, parce que la grâce de Dieu est pour tous, sans exception, c'est possible. Alors on va se lever. Et je prends quelques courtes minutes, quelques instants, et on va prier. Si vous ne pouvez pas vous lever, vous restez assis, bien sûr. Jésus, en ce qui me concerne, Seigneur, en tant que ton serviteur, je ne sais pas les répercussions que ce message peut avoir déjà maintenant dans les cœurs. Je ne sais pas, Seigneur, les répercussions que ce message ce matin, par rapport au témoignage de cette femme syrophénicienne, aura dans les heures qui viennent. Mais je sais qu'il aura une répercussion physique, morale, spirituelle, matérielle, sociale, pour celui qui agira, pour celle qui agira comme elle. Plusieurs sont venus ce matin et à un moment donné, tu leur as dit qu'ils étaient légers. La seule chose que je te demande dans ma prière, Seigneur, c'est qu'ils ne viennent pas à partir de ce lieu en étant en colère. En disant qu'ils ont été blessés. Mais au contraire, de te dire maintenant, Jésus, je ne veux pas être léger. Je veux être comme cette femme dont la foi t'a touché. Je voudrais tout simplement demander à ceux et celles qui ont compris la portée de ce message pour leur propre vie dans tous les domaines que j'ai cités, de rester debout et les autres, parce que vous êtes libres, c'est un appel. Ceux qui se disent « ce message ne me concerne pas, je n'en veux pas », vous êtes libres. Je ne l'accepte pas, je le refuse, c'est votre droit, le plus légitime, et je ne m'en vexerai pas. Alors je vous demande, vous, de vous asseoir. Et ceux qui restent debout, c'est qu'ils ont compris, comme cette femme, que ce que Jésus fait, de la manière dont Jésus agit, de la manière dont Jésus peut parler au travers de la prédication de l'Évangile, c'est important pour votre guérison, votre salut, pour ceux qui viendraient pour les premières fois, pour le pardon de vos péchés, pour ceux qui viendraient pour les premières fois, mais aussi pour des chrétiens qui ont besoin peut-être d'être pardonnés de leurs péchés. Peut-être par rapport à un autre problème familial, problème de couple, problème de compréhension spirituelle par rapport à la volonté de Dieu pour vous et pour l'Église. Je l'ai dit tout à l'heure, de la part de Dieu, c'est aujourd'hui. Et le Seigneur est là où il faut, il est là. Plusieurs sont donc debout, ceux qui sont assis, c'est leur choix. C'est entre vous et Dieu, moi je ne vous jugerai pas. Mais je veux prier pour ceux qui sont debout. Seigneur, je te prie, Père, au nom de Jésus, très simplement, que ceux qui sont debout, dont tu connais la détresse, les besoins particuliers, parfois même assez complexes, dans tous les domaines cités précédemment, Seigneur, je te prie, alors que la foi s'est manifesté dans leur cœur peut-être plus fortement que quand ils sont arrivés, leur permettent d'obtenir de toi aujourd'hui, maintenant, pour les uns le salut, le pardon de leurs péchés, pour les autres la guérison physique, morale, spirituelle, pour les autres une restauration, pour les autres un miracle, pour les autres un changement dans leur famille, un changement dans leur couple, un changement dans le cœur de leurs enfants, un changement sur le plan professionnel, ô Dieu, et bien d'autres choses encore. C'est aujourd'hui le jour du salut, c'est maintenant le temps favorable, au nom de Jésus. Amen.